chapitre 1, à partir du verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17 jusqu'à 1 Corinthiens 2, verset 12. Corinthiens 1, à partir du verset 17. Jusqu'à 2,12. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je ne vais pas vous parler en détail de ce texte, mais vous le savez, à l'époque, lorsque Paul s'adresse aux Corinthiens, il s'adresse à des chrétiens qui vivent dans une ville, dans un monde où la pensée, la sagesse, l'élitisme était quelque chose de commun. N'est-ce pas, les discours, c'était quelque chose qui était à la mode. C'était les philosophes Aristote, Platon qui étaient pratiqués. Il y avait différents courants de pensée. On a déjà eu l'occasion de parler du gnosticisme, mais il y en avait d'autres. Le cynisme. Plein d'autres dont je me rappelle plus, mais voilà. Et donc, Paul parle à des chrétiens qui vivent dans ce contexte-là. C'est leur quotidien. Ce sont des jeunes chrétiens. Et donc, il utilise ce contexte pour rappeler aux Corinthiens que dans l'Église de Christ, l'ordre, la force, la puissance, la réussite se trouvent en Dieu, par le Saint-Esprit, et pas dans les sagesses extérieures. Et si aujourd'hui nous voulons comprendre l'Église et comment est l'Église de ce siècle dans lequel nous vivons et comment elle est attaquée, alors il faut aussi comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les idées, les courants de pensée qui traversent le monde aujourd'hui. Les croyants en Jésus sont persécutés parce qu'à un moment, il y a quelque chose chez eux, dans leurs propos, dans leurs attitudes, dans leurs choix, dans leur style de vie, quelque chose qui provoque la colère et le jugement de la part de ceux qui sont autour d'eux, ceux qui vivent à leur côté. Selon le contexte dans lequel vous vivez dans le monde, vous pouvez être persécuté par un mari, par une famille, par des collègues, par des services sociaux, par une foule dans la rue. Je regardais dernièrement une vidéo d'un pasteur, pasteur David Lynn, qui est un Américain et qui est prédicateur de rue. Et il prêchait dans un contexte d'une manifestation LGBT. Et cet homme a été, pour ainsi dire, pris à partie par la foule qui s'est pressée autour de lui et qui se montrait menaçante. Si vous connaissiez la façon de fonctionner dans certains pays et pourquoi certains chrétiens sont tués, ce sont souvent les foules. Une personne qui commence à parler contre le chrétien du coin de la rue, qui le rend responsable de choses qui se sont produites, et il y a toute une foule qui va se déplacer pour aller chez lui et pour mettre à sac sa maison et voir pour le tuer. Il y a, n'est-ce pas, selon le contexte, la colère et le jugement peuvent venir de tous les côtés. Ça peut être un gouvernement aussi. Ça peut être toute une société. Bref, le croyant en Jésus doit faire face à des individus ou à des groupes qui possèdent, d'une façon ou d'une autre, des moyens de nuisance. L'intimidation, la menace, la violence, la prison, le meurtre. Ce qui est reproché aux croyants en Jésus, c'est au minimum un manque de sagesse, ça c'est ce qu'on va nous dire ici, dans notre pays, mais bien souvent ils sont considérés comme des fauteurs de troubles à l'ordre public. Ils sont nuisibles pour l'équilibre de la société, ils sont dangereux, voire fous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on cherche à les empêcher d'agir. Ceux qui portent ces jugements, s'ils avaient Dieu en face d'eux, s'ils avaient leur Créateur en face d'eux, ils le critiqueraient et le persécuteraient exactement comme ils le font aujourd'hui avec les chrétiens. C'est ce qui s'est passé avec Jésus, n'est-ce pas? Il est venu, il était Dieu, il a été critiqué, il a été persécuté, il a été amené à la croix. Et ce texte nous rappelle que s'ils avaient eu la sagesse de Dieu à l'époque, eh bien, ils ne l'auraient pas sacrifié. Ils ne l'auraient pas crucifié. En fait, Jésus a dit à ses disciples, et donc il l'a dit à vous et à moi aussi, « Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Dans la bouche de Jésus, la persécution, ce n'est pas une prophétie pour la fin des temps, où les chrétiens seront persécutés. C'est la vie normale du chrétien. Je suis ce que je suis, et à cause de ce que je suis devant Dieu, je suis persécuté. Et donc la question, c'est est-ce que je suis persécuté aujourd'hui? Si je ne le suis pas, c'est peut-être qu'il y a un problème dans ma façon de vivre la foi. C'est l'état normal du chrétien, la persécution. Et donc aujourd'hui, c'est acquis dans la société mondiale que les croyants en Jésus-Christ sont des gens dangereux. Et par inférence logique, par déduction logique, eh bien Dieu est dangereux. C'est ce que dit le monde, en fait. Dieu est dangereux. Le monde dit ça, et les faux chrétiens disent ça aussi. Il y a, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui lisent la Bible, qui ont une forme de croyance en Dieu, mais qui trouvent que Dieu est dangereux malgré tout. Si on va jusqu'au bout des choses dans la parole. Pourquoi est-ce qu'ils trouvent Dieu dangereux? Ils trouvent dangereux parce que Dieu porte un regard désapprobateur sur le monde et sur son péché. C'est pour cela que les hommes ont décidé de minimiser la place de Dieu. Et pour le faire taire, ils l'ont abaissé au rang des autres dieux. C'est pas nouveau, n'est-ce pas? Israël a fait ça. Pendant tous les siècles de l'ancienne alliance, à de nombreuses reprises, ils ont été repris par Dieu parce que ils adoraient Dieu au milieu d'autres divinités. Et si vous voulez faire Dieu, taire Dieu, c'est comme ça que vous devez faire. Vous dites pas tu n'existes pas, mais tu existes à peu près au même titre que les autres. Et c'est ce que nous connaissons bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Autre chose que le monde et les faux chrétiens trouvent dangereux, ce sont les idées de Dieu pour régler le problème ou les problèmes du monde. Les vérités qui sont en Dieu s'opposent aux idées d'une société mondiale qui se veut puissante, sage et responsable. En réalité, il suffit de regarder les journaux, de lire les journaux et de regarder à la télévision les infos. Le monde croule sous la misère, l'injustice, et les gens ont peur de ce qui va leur arriver demain. Des sociétés entières sont prisonnières de tyrans qui eux-mêmes sont sous l'emprise de démons puissants. Le monde et les faux chrétiens trouvent Dieu dangereux parce que, quelles que soient les opinions des hommes sur Dieu, celui-ci n'a qu'une seule pensée, qu'une seule norme morale. qu'un seul discours que j'illustrerai par deux versets, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau, Michée 6, verset 8. Vous connaissez très bien, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la morale divine. Ça, c'est ce que Dieu veut répercuter à travers le monde, partout. Tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu et que tu pratiques la justice. Voilà ce que Dieu dit au monde. Et Jésus a repris ça dans un contexte avec les pharisiens, lorsque les disciples prenaient des épis pour manger. Je dis juste ce que dit Jésus, Matthieu 12, 7. « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Pour l'apôtre Paul, la folie de Dieu désigne la norme morale qui est une norme qui est inverse à la norme morale du monde. Qu'est-ce que les hommes trouvent insupportable chez Dieu? D'abord, la façon de travailler de Dieu. Dieu est incompréhensible pour les non-croyants, mais aussi pour les faux chrétiens. Judas ne comprenait pas ce que faisait Jésus. Il ne comprenait pas. Et c'est pour ça qu'il en est arrivé à finalement le donner aux soldats du temple. Il ne comprenait pas. Il y a chez Dieu une logique qui appartient à un monde perdu. Celui d'avant la chute. Mais grâce à la rédemption, la logique divine est à nouveau comprise. Et tous les véritables enfants de Dieu qui ont été rachetés de leur vaine manière de vivre par la foi en Dieu et par le sang de Jésus-Christ sur la croix peuvent à nouveau reproduire cette logique. Ensuite, il y a les choix de Dieu. Dieu fait des choix que les hommes de bon sens et que les faux chrétiens ne feraient pas. Par exemple, lorsqu'il s'agit de choisir un roi pour son peuple, il choisit David, un berger, qui aime Dieu passionnément, pas un guerrier expérimenté comme Saül, qui se moque d'accomplir ou non la volonté de Dieu. Enfin, Dieu se rend insupportable aux hommes et aux faux chrétiens parce que dans sa folie, Dieu incarne et propage des valeurs morales qui sont inverses à celles du monde. Concernant la façon de travailler de Dieu, dans Matthieu 16, 18, vous lisez « Moi je te dis, tu es Pierre. » Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu travaille, agit, sauve, bâtit son église par la puissance du Saint-Esprit sur le fondement des enseignements qu'il leur a donnés, qu'il a donnés aux apôtres, aux disciples, lorsqu'ils étaient sur la terre. Et dont ils se sont souvenus lorsque le Saint-Esprit est venu. Malheureusement, les hommes ont entendu bien souvent « Nous bâtirons mon église » ou « Nous bâtirons ton église ». De sorte que siècle après siècle, certains se sont acharnés à donner une forme, une organisation et des édifices à un système religieux, donnant une apparence de piété. mais sans que l'on puisse voir la puissance de Dieu. Et je ne parle pas seulement des cathos, je ne parle pas seulement des protestants, mais de toute forme de manifestation chrétienne, pseudo-chrétienne, se réclamant de Dieu sans la présence du Saint-Esprit. Dans 2 Timothée 3,5, vous lisez « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Lorsque les hommes agissent sans la foi, ils ont besoin de repères, ils ont besoin de modèles, de techniques, de faire des choses qui marchent et qui soient efficaces. Un jour, quelqu'un m'a dit à propos de ma prédication, c'est bien de poser des questions, mais il faut donner les réponses. Vous croyez vraiment que j'ai, moi, les problèmes, les réponses à vos problèmes ? Vous pensez vraiment que je peux vous donner une recette à appliquer ? Pour que votre vie chrétienne soit plus conforme à ce qu'elle devrait être? Vous pensez que je peux vous aider à avancer avec Dieu? Si vous voulez confier, si vous vous confiez en Dieu, la parole de Dieu vous donnera tous les renseignements dont vous avez besoin. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous enseignera ce que vous devez savoir pour votre situation personnelle. C'est comme cela que Dieu travaille. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et les hommes, quand ils entendent, quand ils lisent ça, se demandent comment ils vont faire les meilleures Églises, les meilleures stratégies, comment ils vont mettre en place l'organisation, comment ils vont adopter, quel pasteur ils vont choisir, quel leader, comment le choisir. Quelle association annexe, quelle mission, et tout le bazar qui va avec. Bien-aimé, Dieu n'est intéressé que par une seule chose. Il veut voir notre foi, pas notre plan à 3 ans. Et la foi en Dieu se montre dans la fidélité des choses du quotidien, la prière, la glorification de Dieu en toutes choses que nous faisons. Les vrais ouvriers de Dieu travaillent essentiellement pour la gloire de Dieu. Leurs œuvres sont dépouillées de tout objectif personnel. Ils sont, selon Paul, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, transformé par le renouvellement de l'intelligence, capable de discerner la volonté de Dieu, agréable et parfaite. Concernant les choix de Dieu rendent Dieu insupportable aux yeux des faux croyants et des religieux. Pour pourvoir aux besoins en nourriture d'une foule, Jésus n'a pas fait appel aux dons. Il n'a pas engagé une campagne de marketing humanitaire, comme le font aujourd'hui certaines missions. Mais il s'est saisi du panier repas d'un petit enfant, quelques pains, quelques poissons, pour nourrir une multitude. La multiplication des pains, c'est l'image de l'évangélisation selon Dieu. Dieu multiplie le peu qui appartient à ses enfants. Et il s'en sert pour nourrir le monde. N'est-ce pas, Jésus a posé la question à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Quand Dieu pose la question à un croyant, « Que ferons-nous ?» Ce n'est pas pour que ce croyant lui donne la réponse. C'est pour éprouver sa foi ont la capacité de Dieu à répondre lui-même à la question qu'il pose. Pas de tenter d'y répondre. Comme Philippe, la réponse des hommes, c'est d'essayer de trouver des solutions humaines à un problème divin. Les faux croyants sont ceux qui pensent qu'ils peuvent aider Dieu dans son travail. Ils se sentent exister en agissant ainsi. Ils se sentent récompensés lorsqu'ils ont du succès. Pour changer, ils ont besoin de voir Dieu à l'œuvre. Ils ont besoin d'une révélation personnelle de la part de Dieu. Cette révélation, Philippe l'a eue lorsqu'il a vu comment Jésus a agi, lorsqu'il a vu qu'il a pris ces quelques pains, ces quelques poissons, et que de ça, il a donné à manger à une foule. Philippe a compris à ce moment-là que la question de Jésus, ce n'était pas qu'il était en train de lui demander une solution, mais que Philippe devait comprendre que Jésus était le seul capable de nourrir une foule. Aucun disciple, aucun serviteur, aucun pasteur, aucun leader, aucun missionnaire, aucun évangéliste ne peut nourrir qui que ce soit. Il n'y a que la puissance de la parole de Christ qui est de la nourriture. Le reste, ce ne sont même pas des miettes. Même pas des miettes. Les miettes appartiennent elles-mêmes à la puissance de l'Esprit de Dieu. Jésus a compris, Philippe a compris ça. Et vous savez la suite. Vous savez comment il a expérimenté lui-même la puissance de Dieu dans son ministère. Ce que les hommes et les faux chrétiens ne comprennent pas, c'est la véritable dimension spirituelle de la foi en Dieu. Le fait que l'évangile n'est pas d'abord un texte dans un livre, mais un homme, le premier homme, le vrai homme qui dans sa vie a parfaitement et pleinement incarné l'image de Dieu, Jésus-Christ, dont la parole se reproduit par le Saint-Esprit qui vit dans le cœur des hommes et des femmes qui ont reçu en eux la vie de Dieu. Dans Jean 3, 36, vous lisez « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et dans 1 Jean 5, 9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. » Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce que le Fils est en nous? Est-ce que la sagesse de Dieu est en nous? N'est-ce pas? C'est la même chose. Comprenez bien. Est-ce que les valeurs de Dieu sont en nous? La miséricorde, la justice, l'amour. Lorsqu'on réalise que le Fils est en nous, en général, ça ne nous laisse pas insensibles. N'est-ce pas? Ça devrait être peut-être une explosion de joie même. Non? Posséder la vie de Dieu, c'est pas triste, c'est merveilleux. Dieu propage des valeurs qui sont inverses à celles du monde. Et Dieu a toujours été comme ça. Dieu, au commencement, Dieu et le monde partageaient les mêmes valeurs morales. Exactement les mêmes. C'est à partir de la chute que l'homme a changé ses lunettes, qu'il a commencé à modifier sa vision du monde. Et c'est pourquoi le monde a l'impression que Dieu agit contre lui. Alors que c'est exactement l'inverse. Dieu n'a pas changé. Le monde a changé. Les hommes et les faux chrétiens pensent que notre regard sur Dieu et le monde doit changer. Que Dieu et ses disciples doivent faire preuve de tolérance et ne pas juger la pauvre humanité qui fait de son mieux. Bien-aimés, Dieu n'est pas tolérant. En fait, c'est un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire divin. Dieu n'est pas tolérant. Il n'aime pas que les hommes trafiquent dans la nature au point de la corrompre, par exemple. N'est-ce pas ? La nature a été créée pour l'homme. Les OGM, par exemple, sont une corruption de l'ordre de la création. Et les écolos, d'une certaine manière, ont raison lorsqu'ils se dressent contre des multinationales qui font ces choses. Dieu ne tolère pas que les hommes prélèvent de façon industrielle les poissons de la mer ou les animaux des champs pour faire de l'argent et ensuite rejeter tout ce qui est en trop pour éviter que les prix s'effondrent, alors que par ailleurs, des gens meurent de faim. Là, c'est le problème de ce que Dieu appelle la justice, n'est-ce pas ? Or, Dieu est juste. À l'inverse, où sont les écologistes lorsqu'il s'agit de se dresser contre la corruption du genre humain ? Lorsque des avortements de confort sont pratiqués et que les émotions profondes de la nature humaine cherchent à redéfinir l'identité sexuelle telle que Dieu l'avait établie. Dieu n'est pas tolérant. Mais au risque de vous surprendre, je dirais que dans sa patience, Dieu est plus que tolérant. Et, n'est-ce pas, nous n'avons pas été les derniers à bénéficier de sa patience. Il nous a aimés, vous et moi, malgré les fripouilles que nous étions. Il aime les menteurs. Dieu aime les voleurs. Dieu aime les homosexuels. Dieu aime les transgenres. Dieu aime les meurtriers. Dieu aime les violeurs. Dieu aime les pécheurs de toutes sortes que cette terre porte aujourd'hui. C'est inscrit depuis toute éternité dans l'ADN divin. Dieu est amour. Il aime tous les hommes. Tous les hommes, même ceux dont il n'approuve pas les façons de faire et la façon de vivre. Est-ce que nous sommes comme Dieu ? Est-ce que nous sommes comme Dieu ? Sans approuver la corruption, sans en refusant les attaques contre Dieu et ses enfants, est-ce que comme Dieu, nous aimons ceux qui ne sont pas aimables ? Et est-ce que nous sommes en mesure de leur annoncer Jésus-Christ ? En fait, si nous n'arrivons pas à aimer le monde, eh bien nous n'arriverons pas à leur annoncer Jésus-Christ. C'est juste pas possible. Moi, je ne connais pas vos vies d'avant. Je ne sais pas comment vous étiez avant de rencontrer Dieu. Je sais comment moi j'étais. Et si j'avais été Dieu, je ne me serais pas aimé. J'aurais dit, tu perds ton temps à aimer un type comme moi. Et heureusement, Dieu ne m'a pas écouté. Parce qu'il m'a montré son amour. Alors que j'étais tout ce que vous voulez, tout ce que la Bible dit, je l'étais. Rebelle à ses parents, désobéissant, tout. Mais si Dieu ne m'avait pas aimé tel que j'étais, et si autour de moi il n'y avait pas eu des hommes et des femmes qui m'ont aimé tel que j'étais et qui m'ont annoncé la parole de Dieu, jamais j'aurais pu être sauvé. Est-ce que nous sommes en mesure d'aimer notre prochain tel qu'il est, sans restriction, en éliminant tous nos préjugés? Ça ne veut pas dire qu'on approuve ce qu'ils font, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que déjà le salut est à leur porte lorsque vous les aimez. Le salut est à leur porte. Et si vous aimez les hommes et les femmes de cette façon-là, alors vous devenez comme Dieu, vous devenez fou. La folie de Dieu, elle est là. C'est-à-dire aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Si vous savez que vous n'arrivez pas à ça, et moi ça m'a pris du temps, vous avez entendu mon témoignage, ça m'a pris du temps jusqu'à ce que j'arrive à aimer mon prochain, malgré ce qu'il était. Si vous n'arrivez pas, je vous invite maintenant à courber vos têtes, à demander à Dieu de faire vraiment sa demeure en vous par le Saint-Esprit, afin qu'il change votre cœur et que la sagesse de Dieu, l'amour, la patience, la miséricorde, la justice puissent inonder votre cœur pour que Dieu soit glorifié, parce que Dieu est glorifié dans ces choses-là. Et pour le salut des hommes qu'il envoie, qu'il vous envoie. Je vous invite à prier. Vous pouvez faire haute voix, à voix basse, comme vous voulez.
Seigneur, par ces textes et ces paroles de ce matin, on voit la différence entre ton esprit et l'esprit du monde ou l'esprit des hommes. Et tu veux nous aider à nous laisser totalement transformer, que toi tu puisses complètement agir et nous puissions de plus en plus te ressembler, que toi tu puisses agir dans nos vies. Seigneur, je te remets toutes choses et tu veux guider et conduire chacun à vraiment s'abandonner entièrement à toi. On veut vraiment te demander cela. Puisse le faire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Seigneur, quand tu t'es donné, tu n'as rien retenu. Tu t'es donné pleinement. Tu t'es donné à fond. Tu n'as rien gardé pour toi. Tu n'as pas mis de conditions. Seigneur, tu as juste donné. Seigneur, nous voulons vivre de ta folie, cette sagesse, Seigneur, qui est une sagesse qui vient d'en haut, une sagesse qui n'a pas changé, qui n'a pas évolué avec le temps, c'est la sagesse de Dieu, du Créateur. Seigneur, celle qui met en avant la miséricorde, la justice, l'amour. Seigneur, nous voulons que ce soit comme cela que nous soyons reconnus autour de nous, comme étant des hommes et des femmes qui agissent à l'inverse des valeurs morales du monde, complètement à l'inverse. Où cette marque de Dieu est tranchée, claire, sans intérêt personnel, quitte à perdre, Seigneur, que toi, tu sois glorifié. Seigneur, j'ai moi encore beaucoup de chemin à parcourir là-dedans. Seigneur, mais je compte sur toi, je compte sur ta grâce et je regarde à toi avec foi pour que tu continues, Seigneur, à transformer l'intelligence de mon cœur. Seigneur, que ton nom soit béni pour qui tu es. Amen.